Bonjour, je vous invite à prendre vos Bibles, on va continuer dans le livre des Actes avec la suite des discours de Paul où Paul présente sa défense. Alors on a aujourd'hui le quatrième discours de Paul pour sa défense. Je vous propose de surtout nous concentrer sur le discours de Paul. Je trouve que c'est un excellent modèle sur la manière de dire notre foi. Je voudrais juste dire un peu deux, trois éléments sur le contexte. Et puis, ensuite, on se concentrera surtout sur le discours de Paul dans Actes 26. Le contexte, ça commence à la fin du verset 24, où on a cette phrase « Deux années s'écoulèrent ainsi, après quoi Félix fut remplacé par Porcius Festus. » Voilà, Paul est en prison pendant 2 ans. Alors, c'est une prison relativement souple, il est plutôt en appartement surveillé que vraiment au fond d'un cachot. Mais quand même, ça fait 2 années. Qu'il est en préventive en attendant d'être jugé. Et dès le moment où il y a le changement de gouverneur, les adversaires de Paul vont se précipiter pour parler au gouverneur et pour réclamer une fois de plus la tête de Paul. Alors ils le font à leur manière, en demandant que Paul soit transféré à Jérusalem et jugé à Jérusalem, en espérant pouvoir le faire assassiner sur la route. Il est clair qu'il est plus facile de l'assassiner en route que l'assassiner quand il est dans la ville romaine de Césarée. Paul va rester ferme dans son attitude, il va réclamer de rester à Césarée sous la protection des Romains. Et puis, vous avez une phrase qui revient souvent chez lui, « Ces gens ne peuvent pas apporter la moindre preuve pour appuyer leurs accusations. » Par la suite, Festus va parler au roi Agrippa II. Vous connaissez tous ce cher homme, Agrippa II, n'est-ce pas ? Petit-fils ou arrière-petit-fils d'Hérode le Grand. C'est un texte assez important parce que, en fait, Festus est très embêté. Paul, on a appelé à l'empereur, donc il doit être transféré à Rome. Et puis Agrippa doit rédiger un courrier pour dire pourquoi Paul est condamné quelque part, pourquoi Paul est envoyé à l'empereur. Et il ne sait vraiment pas quoi dire. C'est un texte important parce que Festus y affirme de manière assez forte que Paul est innocent. Alors c'est important pour nous, mais c'est aussi important. Enfin, c'est important pour Paul, mais c'est aussi important pour nous pour dire voilà, l'apôtre Paul n'est pas un criminel. Alors, par exemple, au chapitre 25, au verset 19. Festus résume ce qu'il a compris des discussions qu'il a eues à Jérusalem, et il dit ceci, « Il ne s'agissait que de discussions au sujet de leur propre religion et d'un certain Jésus qui est mort et dont Paul dit qu'il est vivant. » On l'a dit tout à l'heure, nous aussi on est d'accord avec Paul, on dit que Jésus est vivant. Mais vous voyez, il dit ici que Paul est simplement accusé pour ses positions religieuses et non pas pour avoir fait un crime. Et un peu plus loin, il va dire ceci au verset 25, « En ce qui me concerne, je n'ai rien trouvé dans son cas qui puisse mériter une condamnation à mort. » Ensuite, le roi Agrippa va dire qu'il a envie d'entendre parler Paul, et puis il va donc y avoir une réunion où Paul peut, quelque part, présenter sa défense devant le gouverneur romain Festus, devant le roi Agrippa, donc Agrippa II, et puis devant la sœur d'Agrippa, qui est la princesse Bérénice, si mes souvenirs sont bons. Alors, je vous invite cette fois-ci à prendre vos Bibles et on va lire presque l'entier du chapitre 26 où on voit comment Paul présente sa défense. Acte 26. Agrippa dit à Paul, « Tu as la parole, tu peux présenter ta défense. » Alors Paul étendit la main et présenta ainsi sa défense. « Roi Agrippa, je m'estime heureux de pouvoir aujourd'hui me défendre devant toi de toutes les accusations que les Juifs ont portées contre moi, car tu connais parfaitement toutes leurs coutumes et leurs discussions. Veuille donc, je te prie, m'écouter avec patience. Tous mes compatriotes savent comment j'ai vécu dès ma jeunesse au sein de mon peuple à Jérusalem. Ils me connaissent depuis longtemps et ils peuvent témoigner, s'ils le veulent bien, que j'ai conduit ma vie selon les principes du parti le plus strict de notre religion, celui des pharisiens. Et maintenant, si je suis traduit en justice, c'est à cause de mon espérance dans la promesse de Dieu à nos ancêtres. Nos 12 tribus espèrent voir son accomplissement, en rendant leur culte à Dieu nuit et jour. Oui, c'est à cause de cette espérance que je suis mis en accusation, par des Juifs au roi. Et pourtant, trouvez-vous incroyable que Dieu puisse ressusciter des morts ? Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. j'ai jeté en prison, en vertu des pouvoirs que j'avais reçus des chefs des prêtres, un grand nombre des membres du peuple saint, et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. C'est ainsi qu'un jour, muni des pleins pouvoirs que m'avaient accordés les chefs des prêtres, en me donnant cette mission, je me suis rendu à Damas. J'étais en chemin et il était environ midi. C'est alors au roi que j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat, ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre, et j'ai entendu une voix qui me disait en hébreu « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Je demandai « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu. » Et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des non-juifs vers lequel je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les laisser passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. Ainsi au roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel. Mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et enfin aux non-juifs. Et je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. Et c'est pour cette raison que les juifs se sont emparés de moi dans la cour du temple et qu'ils ont essayé de me tuer. Mais j'ai été protégé par Dieu jusqu'à ce jour. Et je suis donc encore là pour apporter mon témoignage aux gens d'humbles conditions comme aux personnages importants. Et ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement. C'est-à-dire que le Messie souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter pour annoncer la lumière du salut, non seulement au peuple juif, mais aussi aux non-juifs. Paul en était là dans sa défense quand Festus s'écria « Tu es fou, Paul ! Ton grand savoir te fait perdre la tête !»« Non, Excellence, répondit Paul, je ne suis pas fou. Tout ce que je dis est vrai et sensé. » D'ailleurs, le roi Agrippa est au courant de ces faits, et c'est pour cela que je peux lui en parler avec assurance. Aucun de ces événements ne lui échappe, j'en suis sûr, car ce n'est pas en secret qu'ils se sont produits. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Oui, je le sais, tu y crois. Alors Agrippa dit à Paul, « Encore un peu et tu vas me persuader au point de faire de moi un chrétien. » Qu'il s'en faille de peu ou de beaucoup, reprit Paul, « Je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent en cet instant, vous deveniez comme je suis moi-même, à l'exception de ces chaînes. » Là-dessus, le roi se leva et les gouverneurs, Bérénice ainsi que tous ceux qui avaient siégé avec eux, l'imitèrent. En se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Il aurait pu être relâché s'il n'avait pas fait appel à l'empereur. » Un long discours de Paul. On admire toujours la qualité d'orateur de l'apôtre Paul. Je ne suis pas sûr qu'on ait son habileté si on était à sa place. Hein. C'est un texte intéressant parce qu'il nous donne un excellent modèle sur la manière de parler de notre foi. Alors, pour ceux qui ont déjà eu des formations avec moi sur comment dire son témoignage, vous avez déjà entendu pas mal d'éléments sur ce chapitre parce que c'est un chapitre modèle pour parler de notre foi. Alors, je vous propose de travailler en deux temps. Le premier temps, c'est parler un peu du contenu théologique. On va aller assez vite là-dessus. Et dans un deuxième temps, parler de la forme. Comment Paul s'y prend ? Parce que finalement, c'est ça aussi qui peut nous motiver à dire comment moi, je peux expliquer ce que je crois, ce que je vis avec Dieu à mes proches. Voici quelques éléments de contenu. Le premier, c'est bien sûr que Jésus est vivant. Vous avez vu qu'on nous l'a même mentionné plusieurs fois. Hein ? Jésus est vivant. On n'est pas loin de Pâques, donc c'est facile. Donc effectivement, c'est la Pâque orthodoxe aujourd'hui et c'est la fin de la Pâque juive qui dure une semaine aussi. Ensuite, on nous dit que Jésus est Dieu, qu'il est le Seigneur. Le mot Seigneur, c'est le mot un peu utilisé en principe pour parler du Dieu de l'Ancien Testament. Et on nous présente Jésus ici comme le Dieu de l'Ancien Testament qui appelle des prophètes à parler en son nom. On a beaucoup de similitudes entre ce que Paul raconte ici et les appels des prophètes dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, voyez que Paul est relativement humble parce qu'il parle de son appel comme la manière de diriger un bœuf. Pas mal, hein ? Oui, c'est ça qu'il dit, hein ? Comment est-ce qu'on dirige un bœuf, semble-t-il, à l'époque ? Le propriétaire, il sait très bien où il veut amener son animal. Généralement, il y a une charrue ou une charrette derrière. Hein. C'est la charrette qui nous intéresse, mais bon. Et il va marcher à côté de l'animal avec des pics. Donc, soit l'animal, il marche là où il doit aller et tout se passe bien, soit il dévie et il va se blesser sur les pics. Hein, c'est ce que ici le texte dit en disant « Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon ». Intéressant comme manière de présenter l'appel de Dieu. Hein. Paul est en train de dire que pendant longtemps, qu'il y avait un appel de Dieu sur sa vie, et pendant longtemps, il l'a refusé. Et il s'est blessé lui-même en refusant l'appel de Dieu. Paul se présente ici plus. On fait plutôt un parallèle avec le prophète Jonas, hein, qui ne voulait pas obéir à Dieu, qu'avec d'autres prophètes comme Ésaïe, qui disent « Me voici, envoie-moi ». Lui, ce n'est pas du tout ça. Hein. Il se rebiffe contre l'appel de Dieu, et c'est après bien des combats qu'il va finalement plier le genou. Paul dit aussi que Jésus s'identifie aux chrétiens. Hein, Jésus se présente en disant « Je suis Jésus que tu persécutes ». Paul n'a jamais persécuté Jésus, hein, mais il a persécuté des chrétiens. Toute manière de dire que nous sommes vraiment le corps de Christ. Ce qui nous arrive, ça touche Jésus. Vous savez que nos amis catholiques parfois insistent beaucoup sur le fait que le corps de Christ, c'est le pain de l'Eucharistie. Et je trouve que c'est problématique. Le corps du Christ, c'est les croyants. On a aussi dans ce passage deux et même trois résumés de l'Évangile. Alors, sauf erreur, j'en ai mis deux sur la diapo, mais il y en a en fait un troisième. On va commencer par le premier. Le premier résumé de l'Évangile, c'est le verset 18, où Jésus résume ainsi l'Évangile. « Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. » C'est un bon résumé de l'Évangile. Et il y en a deux autres encore après, au verset 22-23, à la fin du verset 22. « Ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement, c'est-à-dire que le Messie souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter pour annoncer la lumière du salut, non seulement au peuple juif, mais aussi aux non-juifs. » Le Messie devait souffrir et ressusciter pour le salut du monde. Et puis encore, alors ce n'est pas vraiment un résumé, mais presque quand même, il nous dit qu'est-ce que nous sommes appelés à faire ou à croire. Et cela, il le résume au verset 20, où l'apôtre Paul résume cela ainsi, l'évangile qu'il prêche. « Je leur ai annoncé qu'ils devaient changer, se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. » Encore une manière d'annoncer l'évangile. Les mots grecs sont intéressants parce qu'ils ont la nuance de « changer notre manière de penser », mais aussi de « changer de direction », se détourner de la mauvaise direction qu'on avait pour prendre la bonne, hein, et encore de pratiquer des œuvres dignes du Seigneur. Ouais, intéressant, hein, comme manière de dire ce qu'est la vie chrétienne. Ouais. Vous voyez que Paul est en train de raconter sa vie, n'empêche qu'il arrive à le raconter tout en donnant des résumés de l'Évangile. Et puis, bien sûr, il nous annonce que Jésus change les vies. Jésus ne se contente pas de dire « vous devez changer », mais il change les vies. Et ici, on a le modèle de Paul, qui était un tortionnaire, un adversaire de l'Église, et qui devient un prophète du Seigneur. Une autre manière encore de résumer l'Évangile. Jésus intervient pour changer nos vies et nous donner une mission. Alors, dans le passage, on a aussi la rencontre spécifique de Paul avec Jésus. Ça ne s'est sans doute pas passé de cette manière-là pour vous, hein. Je ne suis pas sûr que voilà. Mais ça, c'est nous, à nous de raconter la manière dont nous avons rencontré Jésus. Pour le reste, je pense que ce sont des éléments, évidemment, que nous avons à dire, à redire, à méditer. Ensuite, par rapport à la forme de ce que Paul nous dit, je trouve important de faire quelques commentaires parce que je trouve que c'est vraiment un passage qui nous présente l'essentiel de ce que nous avons à savoir et à retenir pour parler de notre foi. Alors, comme dit, certains l'ont déjà entendu, désolé pour eux, mais des fois c'est bon de se rafraîchir la mémoire. La première chose à dire, c'est que Paul fait preuve d'énormément de politesse. Quand on est face à quelqu'un d'important, parfois on est un petit peu paralysé, on ne sait pas trop quoi dire et on risque de bredouiller un peu. Vous voyez que lui ne bredouille pas, mais il parle avec beaucoup de politesse. Il commence en disant « Veuille donc, je te prie, m'écouter avec patience ». Ouais, veuille m'écouter avec patience. C'est un honneur d'être écouté. Même si on a un truc exceptionnel à dire qu'est l'évangile, hein, c'est un honneur d'être écouté. On paye très cher les petits pour ça, hein, finalement. Ouais. Pensez-y quand vous reprochez à votre conjoint de ne pas vous écouter. Hein. On a parfois tendance à penser que le fait que quelqu'un nous écoute, c'est un espèce de dû, voyez ? C'est un honneur qu'on nous fait quand on nous écoute. Quelque part, c'est aussi pour ça que, voilà, quand Luc prépare sa présidence ou que je prépare ma prédication, on se prépare soigneusement. C'est parce que vous nous faites un honneur de nous écouter. Et à la fois, on aimerait respecter la parole de Dieu, mais à la fois, honorer le respect que vous nous faites. C'est un beaucoup plus grand honneur d'écouter que de parler, en fait. Pensez-le. Vous voyez, Paul va dire ici, « Veuille, je te prie, m'écouter avec patience. » Alors, je vous ai mis des petits schémas que j'ai volés chez Bill Bright, qui est de dire, « Donner notre témoignage, ce n'est pas juger les gens, ce n'est pas dire combien on est bien, même si on est des gens très bien, hein, bien d'accord, hein. Ce n'est pas non plus donner des coups de Bible sur la tête des gens, mais c'est leur montrer où est Jésus. » J'aime bien la phrase, je crois, c'est de C.S. Lewis, qui disait, « L'évangélisation, c'est un mendiant qui montre à un autre mendiant où sont les meilleures poubelles. » Oui, vous voyez, moi j'aime bien cette idée-là. Hein. Alors, je ne sais pas si l'évangile doit être comparé à... Bon, bref, mais bon. Mais quelque part, c'est ça. On n'est ni plus ni moins que les autres. Simplement, on sait où se trouve la lumière. Ou la meilleure nourriture, selon l'image de C.S. Lewis. Le deuxième élément qu'on voit chez l'apôtre Paul, c'est qu'il est chronologique. Vous voyez que l'apôtre Paul structure son passage en, voilà, grosso modo en trois parties, avant sa rencontre avec Jésus, sa rencontre avec Jésus, puis après. Mais il va raconter les choses de manière chronologique. Il y a bien sûr d'autres manières de faire, mais quelque part, c'est pas si facile de pouvoir présenter quelque chose, on va dire, dans un ordre qui n'est pas chronologique, tout en restant compréhensible. Donc moi, je vous encourage beaucoup à plutôt être un peu chronologique quand vous parlez de votre vie. Ça va simplifier un peu la vie de celui qui vous écoute. Sauf si vous êtes un excellent orateur, ça vous fait ce que vous voulez. Ensuite, il va s'adapter au public à qui il parle. Il va essayer de tenir compte de ce que ce public sait ou ne sait pas. Il va essayer de s'adapter à leur vocabulaire et s'adapter aussi à leurs connaissances. Je crois que ça fait aussi partie de la politesse élémentaire. Pensez à ce que vous avez ressenti lorsque vous avez parlé à un médecin qui vous a parlé dans son jargon. Vous vous rappelez quel effet ça fait ? On se sent un peu méprisé, infantilisé, et on n'a surtout pas envie de faire ce qu'il nous demande de faire. Ouais, vous avez déjà remarqué ça, hein ? À nous de veiller soigneusement à notre vocabulaire pour dire les choses de manière qui soit compréhensible pour eux. À force d'être dans des églises évangéliques, on est parfois un peu pasteurisé. Hein. Voilà, j'ai marqué deux éléments. Par exemple, je me rappelle, c'était une soutenance de thèse d'un cher ami, et... Donc il a fait sa soutenance de thèse, c'était sur le Wi-Fi et tout ça, bon bref. Et à la fin de sa soutenance de thèse, il a remercié les frères et sœurs qui étaient venus. Donc les gens sont venus me voir après pendant l'apéritif. « Ah ouais, ses frères et ses sœurs sont venus depuis le Mexique ?» Ben non, c'était pas de ça qu'il voulait parler, vous voyez. Bon, comprenez ? Est-ce qu'on utilise un vocabulaire que les gens peuvent comprendre ? Des mots qui nous semblent naturels comme péché, repentance ou conversion, est-ce qu'on les comprend déjà ? Et est-ce que nos vis-à-vis le comprennent ? Pour la plupart de mes amis, se convertir, converti, ça signifie prendre un fichier informatique et le mettre dans un autre format. Ouais, la plupart de mes amis pensent ça. Hein. Pour quelques-uns, se convertir, ça veut dire devenir curé. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait ça que je veux dire quand je dis « tu dois te convertir ». Ouais. Comment est-ce qu'on utilise le langage d'aujourd'hui pour dire des vérités éternelles ? Ici, on se rend bien compte que Paul a une certaine difficulté. Parce que il y a un public important et qui n'ont pas la même connaissance. Et on voit qu'il y a une certaine difficulté parce que Agrippa connaît beaucoup de choses et Félix ne les connaît pas. Vous voyez que Festus, manifestement, connaît très peu les passages bibliques et il ne connaît pas tellement la religion juive. Il dit quelque part qu'il n'a pas vraiment compris la différence du message de ce que croit Paul et de ce que croient les Juifs. Vous voyez, il n'est pas très au courant de tout ça. Hein. Et vous voyez que Paul va dire beaucoup de choses qui sont directement issues de l'Ancien Testament, mais il dit nulle part ça. Hein. Il ne dit pas « je vais te citer Ésaïe, machin ». Non, voilà. Bon, je pense que c'est essentiellement par respect pour Festus. Et on ne sait pas trop pourquoi, en fait, à la fin, Festus réagit très fort en disant « tu es fou, Paul ». Ton savoir se fait faire de la tête. Hein. Donc, il a l'impression que Paul, il parle quelque part sur une autre planète, complètement déconnecté de lui. C'est quelque part ça qu'il dit. Hein. Alors que Agrippa a très bien compris. Des fois, c'est un peu compliqué quand on parle à un groupe. Hein. On s'adapte à qui, finalement? Pourquoi est-ce que Festus a réagi si fortement? On ne sait pas trop, en fait. Est-ce que c'est parce qu'il a dit que le Messie doit souffrir? Ou est-ce que c'est parce qu'il parle la vérité de la résurrection? Bon, je ne sais pas. Je pense que sans doute il réagit parce que Paul dit que c'est le salut, le même salut pour tous. Que Jésus sauve les juifs et les non-juifs. Pour un Romain, c'est excessivement humiliant de penser qu'il a besoin du même sauveur que les juifs. Parce qu'évidemment, eux, ils sont supérieurs, vous voyez, ils ont besoin d'un sauveur mieux, quoi. Ouais. Vous voyez un peu, hein? Donc je pense que c'est sans doute un peu à ça qu'il a réagi. L'idée que lui, empereur romain, gouverneur romain, il a besoin d'un sauveur juif, je ne pense pas qu'il a beaucoup apprécié cette affaire. Bon, maintenant, on ne sait pas. Mais vous voyez, c'est difficile pour Paul, il doit s'adapter à un public qui est un petit peu mélangé, là. Et il va un petit peu... voilà. Paul est tout à fait capable de faire des discours extrêmement brillants et théologiques. On le voit quand on lit l'épître aux Romains ou l'épître aux Éphésiens. Et pourtant, vous voyez ici qu'il parle de sa vie et qu'il parle de sa vie avec Jésus et de sa rencontre avec Jésus. Je trouve que c'est un bon exemple pour nous. Hein. Nous ne sommes pas appelés à faire étalage de notre savoir, mais à parler de notre vie avec Jésus en priorité. Une petite note. Pour nous, la Bible est la parole de Dieu. Donc c'est sûr qu'on aurait envie de parler beaucoup de la Bible pour bien montrer que ce qu'on dit, c'est vraiment vrai, c'est vraiment fiable. Le problème, c'est qu'on parle à des gens pour qui la Bible, bah, c'est juste un bouquin, quoi, au mieux. Et surtout, lorsqu'on cite un peu trop la Bible, eux, ils ont l'impression qu'on se cache derrière l'institution, que pour ne pas parler de nous, on se cache derrière l'Église. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et dans la société d'aujourd'hui, on n'aime pas trop les institutions. Et vous voyez que même Paul, dans la situation où il est, il parle surtout de lui, en fait. Dans la situation de Paul, ce qu'on craint, c'est les nouveautés. Tout ce qui est nouveau, ça ne peut pas être bon, quoi. Pour que quelque chose soit bon, ça doit être vieux. Aujourd'hui, on est encore dans une situation différente, parce que ce que les gens veulent, c'est de l'authentique, du vécu, de l'expérience. Oui. Donc même Paul, dans la situation où il est, il parle de vécu. Donc vous voyez, pour nous, on doit vraiment parler de notre vécu. Et vous comprenez bien que ce n'est pas facile. Parce que ça veut dire qu'on doit être conscient de notre vie. Conscient vraiment de ce qu'on vit avec Dieu pour pouvoir en parler avec honnêteté et vérité. Oui, j'avais mis un autre petit exemple. Voilà, deux petits exemples. C'est un exemple d'un ami pasteur qui m'a raconté ça. Il était militant communiste et un jour, il a vu une jeune fille en uniforme de l'armée du salut. Donc il s'est dit, celle-ci, je vais me la faire. Donc voilà, il est arrivé et lui a balancé tous ses arguments anti-chrétiens, vous voyez. Puis à la fin, la jeune fille lui a dit... Je ne peux pas répondre à vos questions, mais je sais que Jésus a changé ma vie. C'est tout. Le gars, il est rentré chez lui, il s'est converti, il est maintenant pasteur. Intéressant, hein? Simplement, elle a témoigné la vérité. Jésus a changé sa vie. Et le vrai, l'authentique, la réalité, ça a beaucoup plus de poids que beaucoup de théories, finalement. Et une autre phrase, je ne sais pas si vous connaissez le poète Christian Bobin, il dit cette phrase que je trouve intéressante. « J'aimerais tellement aimer ce que je vois ». Mais pourquoi sont-ils si peu présents à eux-mêmes? J'aimerais tellement aimer ce que je vois, mais pourquoi sont-ils si peu présents à eux-mêmes? Notre priorité, c'est de rencontrer vraiment quelqu'un. Et dans cette rencontre, on va pouvoir dire beaucoup de choses. Mais parfois, on se cache derrière plein de choses. Et les gens n'ont pas l'impression qu'ils nous ont rencontrés. Ouais. Alors bon, ça nous rassure, Christian Bobin ne dit pas ça seulement pour les chrétiens évangéliques, hein, il dit ça pour tout le monde. Hein. Pourquoi sont-ils si peu présents à eux-mêmes? Il rencontre des gens, il n'a pas l'impression de les rencontrer, de rester complètement à la superficie. Ensuite, il me semble important de proposer une étape à la fois. Et je crois que c'est un petit peu ce que Paul fait ici. Une étape à la fois. Paul ne dit pas tout. Il essaye de dire ce qui va aider ses interlocuteurs à faire une étape de plus. Là aussi, c'est compliqué quand on a un mélange de gens, hein. Parce que certains ont besoin d'une étape et d'autres d'une autre étape. Alors, je crois que je vous ai mis ça ici. Voilà. Je vous ai mis ici un petit résumé qui nous est proposé par deux spécialistes de l'évangélisation, Don Evert et Doug Schaup. Et il dit qu'il y a un peu cinq étapes importantes. La première étape, c'est passer de la méfiance à la confiance. La méfiance, en fait, envers la foi chrétienne, envers l'Église ou envers nous. À la confiance. C'est dans la confiance qu'on peut commencer à écouter. Ensuite, passer de la complaisance à la curiosité. La plupart de mes amis, ils n'ont rien pour et rien contre Jésus. Simplement, ça ne les intéresse pas. Ouais. Passer à la curiosité. Ensuite, il y a l'étape de passer de l'étape où on n'a pas envie de changer notre vie, où on refuse qu'il y ait des changements dans notre vie, de quel que soit l'ordre que ça se passe, hein, à être prêt à changer. Parce qu'évidemment, commencer à chercher Jésus, ça va me changer. Donc ces auteurs-là disent que c'est actuellement, en fait, le plus grand frein à l'évangélisation. Je pense, il y a pas mal d'années, le grand frein, c'était la méfiance envers les églises. On va dire dans les années 80, on va dire comme ça. C'était le grand frein pour annoncer l'évangile. Les gens se méfiaient des églises. Ensuite, le grand frein, c'était la méconnaissance de Jésus, qui est toujours réelle aujourd'hui. Hein. Je me rappelle avoir rencontré quelqu'un qui me disait « Vous savez, la seule chose que je sais de Jésus, c'est que notre calendrier, il commence avec Jésus. » Vraiment, il ne savait rien d'autre, quoi. Bon. Mais voyez, ils disent ici, ce sont des évangélistes qui disent ça, aujourd'hui, le plus grand frein, ce n'est pas ça, c'est accepter de changer. Parfois lié à l'orgueil, on pense qu'on est tellement bien, mais souvent lié à une certaine peur. Peur de l'inconnu. Peur d'aller, voilà. Dans le film qu'on vous a projeté samedi soir passé, il y a une semaine, hein, à un moment donné, l'acteur principal présente la conversion comme sauter dans un fossé. Sauter la falaise, vous voyez. Et pour certains, c'est ça le problème. Est-ce que je suis prêt à avancer dans quelque chose que je ne connais pas? C'est là aussi où notre témoignage peut être intéressant. Si on raconte honnêtement comment Jésus a changé notre vie, ça peut dire aux autres, ah tiens, voilà comment ça pourrait se passer peut-être pour moi. Après, ça va se passer autrement, mais ça peut éventuellement. Ensuite, le fait de s'intéresser à Jésus et de vraiment chercher à rencontrer Jésus. Et puis, bien sûr, après, il y a une étape qui est, quelque part, vraiment faire ce pas de se repentir, de croire et de donner notre vie à Jésus. Voilà, 5 étapes qui sont, voilà, semble-t-il, les étapes principales aujourd'hui dans l'évangélisation en Europe. Dans d'autres pays, c'est encore autrement. Alors, on va continuer, je vois que je parle un peu trop. Le prochain point, c'est, je vous encourage vivement à ne pas faire de remarques négatives ou de réflexions négatives. Vous voyez que Paul est ici mis en accusation. Il vient quand même de passer 2 ans de prison à cause de fausses accusations de la part des Juifs. Dans tout son discours, à aucun moment, il critique les Juifs. Étonnant, hein ? Il est beaucoup plus important de dire de manière positive pourquoi nous avons choisi Jésus que de dire pourquoi on n'a pas choisi un autre chemin, quoi. Pourquoi nous avons choisi Jésus ? On reproche déjà suffisamment aux chrétiens d'être contre tout, nous n'en rajoutons pas. Voyez ici que Paul parle surtout d'espérance et de lumière, la lumière du salut. Ouais, l'espérance et de lumière. En passant, il parle sans doute aux 2 personnes les plus riches d'Israël à ce moment-là, hein, et il leur parle qu'ils ont besoin d'espérance et de lumière. Enfin, vous voyez que Paul se préoccupe beaucoup de présenter Jésus. Il n'a pas envie, en fait, de parler de lui, même s'il parle de sa vie. Ce qui l'intéresse, c'est de dire qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus pense? Qu'est-ce que Jésus enseigne? Qu'est-ce que Jésus nous demande? Ouais. Et presque un tiers de son discours, ce sont des paroles de Jésus qu'il répète. Et dans les autres choses qu'il dit, il y a plein de choses qui sont en fait des paroles de la Bible. Donc encore des paroles de Jésus. C'est un défi, hein? Comment je peux raconter ma vie avec Jésus de manière à ne pas me mettre moi en avant, mais à mettre Jésus en avant? C'est lui le héros de l'histoire, finalement. Enfin, le point suivant, c'est essayer d'être concret et réaliste. Si on veut que les personnes puissent s'identifier à notre cheminement, il faut être concret et réaliste. Dans notre culture française, on parle peu de nos faiblesses. On n'aime pas parler de nos faiblesses. Par contre, le grand péché entre tous, c'est de ne pas être conscient de ses faiblesses. Vous voyez ? D'avoir des faiblesses qu'on ne connaît pas, ça, c'est le grand problème, en fait. On doit être conscient de nos faiblesses, mais pas les dire. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est notre culture. Bon, voilà. À nous d'être concrets. Si on fait du sensationnel, du type « j'étais drogué, Dieu m'a instantanément délivré », on risque d'avoir 3 réactions possibles. Une, c'est les gens disent toujours. D'autres, ils vont dire « ah, c'est pas pour moi, je ne serais pas capable de faire un saut pareil ». Ouais, vous voyez. Ou d'autres vont dire « c'est juste l'inverse, oh, moi, j'ai pas autant de problèmes que lui, j'ai pas besoin de Jésus ». Ouais. Soyons concrets et réalistes. Soyons réalistes avec les choses que Dieu a changées en nous. Ouais. On sait tous que les choses les plus simples sont les choses les plus compliquées à changer, en fait. Ouais. Même si ce n'est pas spectaculaire, hein, les gens le savent bien. Donc parlons des choses simples que le Seigneur a changées dans notre vie. Quel est le point que le Seigneur a particulièrement changé dans ma vie? Pour moi, c'est la colère. Ouais. Continue à travailler, j'ai toujours de la peine avec, mais voilà. Mais racontons des choses, parce que c'est ces choses-là qui sont difficiles à maîtriser. Notre problème est souvent d'être assez sain, humble et assez sage pour pouvoir avoir une juste appréciation de notre vie et à raconter simplement ce que Dieu a fait. C'est important aussi d'être concret et réaliste parce que les gens n'écoutent pas seulement les mots qu'on dit, mais ils voient aussi notre vie. Imaginez-vous Paul dans sa situation s'il avait dit « Depuis ma conversion, tout va bien ». J'ai entendu plusieurs témoignages comme ça. Voyez quel effet ça aurait fait sur son auditoire. Oui ? Voyez que Paul est assez, quelque part, assez réaliste. Et d'ailleurs, il parle avec un petit peu d'humour. Il dit, je prie que vous soyez comme moi, mais sans les chaînes. Il est bien réaliste qu'il y a des trucs dans sa vie que les gens n'ont pas forcément envie d'avoir. Et à la fin, Paul va faire une sorte d'appel, avec beaucoup de tact et sans mettre de pression. Il dit au verset 29, qu'il en faille un peu ou beaucoup, je prie Dieu que vous deveniez comme je suis. Intéressant, hein? En grec, il y a même une nuance de, on va dire, supplémentaire. Il leur dit, permettez-moi de prier pour que vous deveniez chrétien. Permettez-moi de prier pour vous. Pas mal, hein? C'est comme ça qu'il lance un appel. Moi, j'espère que vous aussi, vous rencontrez Jésus. Est-ce que je peux prier pour toi? Après, il rajoute, oui, mais sans les chaînes, c'est mieux, quoi. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de raconter votre cheminement avec Jésus, si vous le faites souvent ou pas, moi je vous encourage en tout cas à réfléchir comment vous pourriez raconter votre cheminement de foi. Alors pour certains, il y a eu un long cheminement depuis votre rencontre avec Jésus, pour d'autres c'est beaucoup plus frais, puis il y a un long cheminement avant la rencontre, bon voilà. Mais bon, comment vous pourriez raconter la manière dont vous marchez avec Jésus? Si vous voulez vous y mettre, moi je vous encourage à travailler par écrit, on réfléchit mieux par écrit. Ça nous aide simplement à réfléchir en fait. De commencer par faire une sorte de brainstorming, vous avez ici quelques questions qu'on peut se poser et qui nous aident à réfléchir, puis vous marquez sur une grande feuille un peu tout pêle-mêle. C'est quoi ma vie avec Jésus? C'était quoi avant ma rencontre avec lui? C'était quoi après? C'était quoi quand je l'ai rencontré? Ensuite, essayez de choisir un thème ou un fil rouge. Il y en a plusieurs possibles, mais on ne peut pas les mener tous en même temps, on ne peut pas courir tous les lièvres. Paul ne raconte pas toujours son témoignage de la même manière. Mais il en choisit chaque fois un en fonction de son auditoire. Ensuite, je vous invite à rédiger et ensuite à raconter à un ami chrétien pour voir, avoir son avis. C'est utile pour deux choses. Une, c'est qu'il vous permet de dire « Ouais, non, si tu dis ça comme ça, les gens vont rien comprendre. » Mais parfois aussi, ça nous permet de vérifier que ça sonne juste pour nous. Vous voyez ? Quand je dis une phrase, parfois je me rends compte « Mais ça, c'est pas moi, quoi. C'est artificiel pour moi. » C'est un peu le problème quand on met par écrit, des fois. Pas tout à fait comme ça qu'on dit les choses, mais bon, voilà. Et puis après, vous pouvez évidemment améliorer. Après, quand on raconte à nos amis, évidemment, on n'a pas de notes sous les yeux, mais ça nous aide à réfléchir comment je pourrais raconter. Quel fil rouge je pourrais prendre? Et comme dit, il y en a peut-être plusieurs pour nous, parce que Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies, mais on ne peut pas tout raconter d'un coup. Si ça les intéresse, ils viendront nous poser des questions après, mais voilà, commençons par un fil rouge. On n'a pas tous la même liberté de parole et l'éloquence de l'apôtre Paul, je pense. Mais on peut tous profiter de ce que Dieu a fait dans nos vies. On peut profiter de l'expérience de l'apôtre Paul, mais on peut aussi profiter de ce que Dieu a fait dans nos vies pour parler de lui. La leçon de ce matin, c'est surtout qu'on est appelé à essayer de raconter notre vécu avec Jésus, même lorsque nous sommes attaqués. Vous voyez que Paul, finalement, il ne se défend pas vraiment, en fait. Il raconte son chemin avec Jésus. Je fais de temps en temps, parfois, des cafés questions au pasteur. Vous voyez où c'est des gens de l'église qui m'invitent à boire un café ou manger une pizza avec leurs amis. Et puis voilà, puis les amis me posent toutes les questions. Alors généralement, on n'arrive pas à faire toutes les questions parce qu'il y en a trop, mais voilà. J'essaie de répondre le mieux que je peux, mais j'essaie surtout de pouvoir aussi raconter pourquoi je suis chrétien. Alors pour moi, c'est parfois facile. Il me dit, mais en fait, pourquoi tu es pasteur, quoi? Alors je dis, je vais surtout te dire pourquoi je suis chrétien, parce que c'est finalement surtout pour ça que je suis devenu pasteur après. Enfin, bon, voilà. Mais bon, à vous de voir comment vous pouvez, même quand il y a des questions difficiles, pouvoir raconter, écoute, je vais te dire pourquoi je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Et je trouve que c'est un modèle que je vous encourage à lire et à relire. Je trouve que c'est un excellent modèle, voilà, que nous propose ici la Bible, sur la manière dont on peut raconter notre foi et notre cheminement. Voilà, je sais que j'ai parlé beaucoup, je vous ai donné beaucoup de choses. J'espère que ça vous aide et surtout que vous mettiez au travail pour rédiger et dire comment je pourrais le raconter. Et si vous avez vraiment du temps, comment je pourrais le raconter à différentes personnes ? Alors, vous n'allez peut-être pas rencontrer des rois et des gouverneurs romains, mais vous aurez rencontré différentes personnes.